à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du vendredi 10 janvier 2020. Eric Manilakiza à la présentation. Voici d'abord les titres. Au Nigeria, au moins 12 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Amnesty International dénonce l'acharnement du pouvoir ivoirien sur des proches de Guillaume Soro. Michel Djotodia, ancien président centrafricain, est rentré à Bangui après 6 ans d'exil. L'Ukraine remercie les États-Unis pour des informations importantes sur le crash d'un avion près de Téhéran. L'Iran rejette la thèse du missile. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Nigeria, un raid sur un village du centre du pays a fait au moins 12 morts et un blessé grave. La police précise que l'attaque avait eu lieu dans le village de Koulben, dans l'état du Plateau, où des affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs sur la question des terres se produisent régulièrement. Les détails avec Gilbert Tamba, Abuja.
Selon des témoins, des hommes armés ont envahi le village de Koulben dans la nuit du mercredi à jeudi, faisant des tirs sporadiques, forçant beaucoup de résidents à s'enfuir de la brousse. Les renforts ont été déployés dans le village. Il n'y a eu aucune arrestation. Les assaillants sont répartis après l'attaque. La région du Plateau est connue pour des affrontements sanglants entre les éleveurs peuls et les agriculteurs sur la question des terres. Selon l'ONG Messicor, plus de 7000 personnes ont été tuées dans ces violences au cours des 5 dernières années. Malgré tout, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de retirer ses soldats de la région. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Attaque d'un camp militaire de Chinegodar au Niger, dans l'ouest, près de la frontière malienne, dans la région de Tillabéri. 25 soldats ont été tués lors de l'assaut, selon un communiqué jeudi soir du ministère nigérien de la Défense, qui assure que 63 terroristes ont été neutralisés. C'est dans cette même région que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre à Inates, dans une opération revendiqué par le groupe État islamique. Le 25 décembre, 14 militaires ont aussi été tués lors d'une attaque terroriste dans la commune de Sanam, dans la même région. En Centrafrique, Michel Djotodia, l'ex-chef de la rébellion Séléka, qui avait pris le pouvoir par les armes en 2013, est rentré aujourd'hui à Bangui après 6 ans d'exil et moins d'un an avant la présidentielle. Freeman Sipila.
Costume noir, chemise bleue et cravate noire, Michel Djotodia foule à nouveau le sol de la capitale centrafricaine après exactement 6 ans d'exil au Bénin. L'homme en parfaite forme, sourire aux lèvres, s'est présenté aux journalistes dans un grand hôtel de la place comme un ambassadeur de la paix.
Je suis ambassadeur permanent pour la promotion de la paix universelle. Comment je vais revenir encore avec des armes? Donc il n'y a pas d'inquiétude. Au contraire, je suis venu pour aider le peuple centrafricain, j'ai dit, il faut que ce peuple la vive enfin en paix.
Michel Djotodia, contraint à la démission le 10 janvier 2014 par les chefs d'État de la CEAC à N'Djamena au Tchad dans un contexte de chaos en Centrafrique, a été reçu quelques heures seulement après son arrivée par le président Faustin Archange Touadéra. Il ne compte pas en rester là.
Il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma sœur Samapanza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous. C'est avec le chef et tout le monde qu'on va s'asseoir pour pouvoir nous projeter dans l'avenir, voir comment on peut pacifier ce pays en ruine.
L'ancien président de la transition a fait 10 mois au pouvoir entre mars 2013 et janvier 2014. Il était à la tête d'une coalition rebelle à majorité musulmane qui a renversé François Bozizé le 24 mars 2013. Cette visite de 48 heures de Michel Djotodia à Bangui intervient 3 semaines après le retour en toute discrétion dans la capitale centrafricaine de l'ancien président François Bozizé qui attend toujours d'être reçu par Faustin Archange Touadéra. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Les violences en Ituri, dans le nord-est de la RDC, pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité, voire de génocide, selon un rapport des Nations Unies. Le point avec Claire Morin-Gibault.
Depuis décembre 2017, au moins 701 personnes ont été tuées, selon une enquête du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. La grande majorité des victimes semble avoir été visée en raison de leur appartenance à la communauté EMA, avec 402 morts entre 2017 et 2019. L'un des enjeux majeurs du conflit est en effet le contrôle des terres par les hindous, ajoute ce rapport, conjoint de la MONUSCO et du Haut Commissariat des droits de l'homme. Ces violences ont provoqué des déplacements massifs, près de 57 000 réfugiés en Ouganda et plus de 56 300 déplacés internes depuis février 2018. Le conflit en Ituri oppose les Lindous, majoritairement agriculteurs, et les Emma, éleveurs et commerçants. Un précédent conflit entre 1999 et 2003 avait fait des dizaines de milliers de morts. Il a fallu l'intervention d'une force européenne, Artemis, pour faire cesser les atrocités. Le rapport demande aux autorités congolaises de traiter les causes du conflit lié à la terre, de renforcer la présence des institutions et la présence de l'armée. Il suggère à la MONUSCO de prolonger sa présence militaire temporaire dans le territoire de Djougou, l'épicentre des violences.
En Algérie, la police a dispersé ce vendredi dans le centre d'Alger une manifestation contre le régime peu avant la 47e marche hebdomadaire du Irak, le mouvement populaire de contestation qui secoue l'Algérie depuis février 2019. Les autorités mauritaniennes ont refoulé ce vendredi à l'aéroport de Nouakchott le militant français des droits humains Jean-Marc Pelenc à la tête d'une ONG qui dénonce la persistance de pratiques esclavagistes. Le jeune Ivoirien retrouvé mort mercredi dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris a été identifié par les autorités ivoiriennes. Il avait 14 ans et était en classe de 4e. Le gouvernement assure avoir entrepris le renforcement des dispositions de sécurité dans l'espace aéroportuaire de l'aéroport. L'ONG SOS Méditerranée déplore l'incapacité de la Libye de coordonner les secours en Méditerranée malgré les millions d'euros d'aide de l'Union européenne. Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG, craint l'augmentation du risque de naufrage mortel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont remis vendredi à Kiev des informations importantes sur le crash du Boeing ukrainien en Iran. C'est la présidence ukrainienne qui l'a révélé. Les précisions de John Lindon.
Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, n'a apporté aucune précision sur les données reçues, se bornant à remercier Washington pour son soutien dans l'enquête sur les causes du crash de l'appareil peu après son décollage de Téhéran. M. Pompeo a souligné sur Twitter que Washington est prêt à offrir son soutien et son assistance dans l'enquête. La diplomatie ukrainienne avait déjà indiqué vendredi que les États-Unis avaient transmis des informations sur la catastrophe. M. Zelensky avait demandé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni les éléments indiquant, selon eux, que l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a été abattu par un tir de missile solaire iranien. Les 171 personnes à bord ont péri. Il s'agit majoritairement d'Iraniens et de Canadiens, mais aussi de 11 Ukrainiens, dont les 9 membres d'équipage. La catastrophe est survenue peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Le Canada et la Grande-Bretagne ont fait état d'informations indiquant que les forces iraniennes avaient pu abattre le Boeing par erreur, mais Téhéran dit avoir certitude que l'avion n'avait pas été touché par un missile.
Washington a détaillé les nouvelles sanctions annoncées contre l'Iran. L'administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniennes, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d'une conférence de presse. Les États-Unis n'ont pas l'intention de discuter avec les autorités irakiennes d'un retrait des troupes américaines malgré la demande du premier ministre irakien, a déclaré vendredi le département d'État américain. Par ailleurs, des milliers de manifestants ont dénoncé vendredi l'Iran et les États-Unis en Irak, relançant une révolte inédite éclipsée par la flambée de tensions entre les deux parrains de Bagdad. Le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He doivent signer mercredi l'accord commercial préliminaire conçu comme une trêve dans la guerre commerciale sino-américaine lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Le Congrès américain a divulgué hier d'anciens messages internes et de salariés de Boeing dénigrant le régulateur de la compagnie aérienne américaine et ceux qui ont développé le Boeing 737 MAX. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique, vous retrouvez Nanit Talani.
La justice nigériane a annulé près de 2 milliards de dollars d'arriérés d'impôts faits à la société sud-africaine MTN. Après consultation des statuts de l'agence, le procureur général a décidé de remettre l'affaire aux autorités compétentes, soit le Trésor public, soit les douanes. Depuis septembre 2018, MTN était en conflit avec le ministère nigérian de la Justice et le parquet général sur la question d'un arriéré d'impôt d'une hauteur de 2 milliards de dollars et avait porté plainte contre l'État nigérian. Le procès devrait s'ouvrir le 30 janvier. L'or est monté cette semaine à 1611,42 $, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis plus de 6 ans et demi. À Londres, l'once d'or valait 1555,33 $ contre 1552,20 $ vendredi dernier. Quant au palladium, il a atteint un nouveau record à 2117,33 $ l'once contre 1989,83 $ à la fin de la semaine passée. Pour terminer, les cours du café sont dans le rouge cette semaine malgré l'annonce par l'Organisation internationale du café d'un déficit de 0,63 millions de sacs pour la saison 2019-2020. La production est attendue en baisse de 0,9% à 168,71 millions de sacs, tandis que la demande augmente mais les prix ne sont pas aussi meilleurs. À Londres, la tonne de Robusta pour livraison en mars valait 1316 contre 1372 $ le vendredi passé. À New York, la livre d'Arabica pour livraison en mars valait 117,85 cents.
Et sans transition, nous passons directement à votre page des sports avec Bagassi Koura ce soir. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Athlétisme, dopage. Wilson Kipsang Kiprotich, suspendu.
Oui, le coureur de marathon kenyan, ancien médaillé de bronze olympique et ex-détenteur du record du monde, Wilson Kipsang Kiprotich, a été suspendu provisoirement pour falsification et défaut de localisation pour des contrôles antidopage, annoncé ce vendredi l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Âgé de 37 ans, Wilson Kipsang Kiprotich possède un très solide palmarès au marathon. Outre sa troisième place au JO de Londres en 2012, il a remporté à deux reprises le marathon de Londres 2012-2014, le marathon de New York en 2014 et celui de Berlin en 2013. Il a également battu le record du monde en 2013 en 2h03min23s.
On passe au football maintenant. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, élu au CIO.
Oui, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été élu membre du Comité international olympique vendredi, donc lors de la 135e session réunie à Lausanne, en Suisse, succédant à son prédécesseur, Sepp Blatter, qui avait quitté l'instance en 2015. Infantino, 49 ans, italo-suisse, occupe la présidence de la FIFA depuis 2016, où il avait succédé à Sepp Blatter, membre du CIO de 1999 à 2015. Gianni Infantino, réélu à la tête donc de la FIFA pour un second mandat en juin dernier, a été élu en compagnie de deux autres nouveaux membres, l'Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis, et le Japonais Yasuhiro Yamashita, président du Comité olympique nippon et champion olympique de judo, toutes catégories, en 1984.
En NBA, le championnat de basketball nord-américain, Houston qui chute face à Oklahoma.
Oui, Oklahoma et Chris Paul ont gâché le retour de Russell Westbrook en NBA en écrasant Houston 113 à 92 ce jeudi. Le meneur de Founders a inscrit 18 points plus 5 passes décisives et 4 rebonds pour une victoire sans difficulté d'Oklahoma City, la 7e en 8 matchs. Et Philadelphie a tenu face à Boston malgré l'absence de son pivot, le Camerounais Joel Embiid, qui va être opéré ce vendredi pour une entorse à la main gauche subie lundi contre Oklahoma City. Boston, 3e de la conférence Est, subit sa 3e défaite consécutive, une série inédite cette saison pour les Celtics.
Bagassi, vous avez d'autres résultats, n'est-ce pas?
Oui, dans les autres rencontres de la journée, le mal classé Cleveland s'est imposé de justesse à Détroit, 115 à 112, porté par un pivot Tristan Thompson, 35 points et 14 rebonds. Les Pistons reculent à la 10e place de la conférence Est et s'éloignent un peu plus des places qualificatives pour les playoffs. À l'ouest, Minnesota s'est imposé à domicile contre Portland, 116 à 102, avec 23 points d'Andrew Wiggins.
C'était les sports de Bagassi Koura. Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, un millier de personnes réunies dans un meeting sur le boulevard de l'indépendance à l'appel des mouvements politiques debout sur les remparts et le mouvement démocratique du peuple demandent à la France et à la force Barkhane de quitter le territoire malien. Ce 10 janvier 2013 marque les 7 ans de l'intervention de Paris au Mali. Depuis Bamako, la correspondance est signée Kassim Traoré.
Le boulevard de l'indépendance du Mali a été investi par la jeunesse malienne, histoire de célébrer à leur manière les 7 ans de l'intervention française au Mali. Ils sont venus répondre à l'appel du mouvement Yéraouloton debout sur les remparts et du mouvement démocratique pour le peuple.
Que la France puisse encore nous dicter ce que nous devons faire. Il est temps que la France puisse retirer sa main économique sur nous, la monnaie, la politique et les militaires. Que la France puisse retirer son armée de nos terres. C'est pourquoi la jeunesse malienne, c'est pourquoi le peuple malien est là, c'est pourquoi l'Amazone que je suis est là. Donc nous allons pousser ensemble pour dire à M. Emmanuel Macron de retirer l'armée française de la terre malienne. Il est hors de question que la mission Barkhane continue. Ça n'a pas de sens.
Lors de cette mobilisation, les femmes ne sont pas restées en marge. Elles ont répondu présentes et étaient au devant des manifestants.
C'est en quelque sorte une sorte de trahison. On ne sait pas de la part de qui, mais on le saura. Prochainement, nous devons marcher sur Kidal dans les jours à venir. S'il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de changement, nous allons marcher sur Kidal. Même si tout le monde, tout le Mali mourra, nous allons marcher sur Kidal. Nous sommes un peuple aujourd'hui qui est sorti pour faire face à la force obscure. Non, le peuple ne reproche pas. Le peuple reproche quelque chose à la France. Aux forces étrangères, la Barkhane, la MINUSMA.
Selon Dr Oumar Mariko, l'un des initiateurs de ce rassemblement, le meeting de ce 10 janvier 2020 n'est que le début d'un processus qui va sillonner toutes les régions du Mali afin de faire une vraie mobilisation citoyenne.
C'est un soutien politique à notre peuple, de mobilisation de notre peuple, pour que nous prenions nous-mêmes notre destin en main. Car la guerre qui sévit au Mali ne peut être vaincue que par les armes seulement. La guerre que nous avons au Mali, il sera mis fin à cette guerre-là par la politique, une politique conséquente et par les forces armées débarrassées de tout complexe. Que nous devons pas trouver notre peuple. Parce que ce n'est pas la France qui va nous trouver. Ce n'est pas la France qui va nous assurer la sécurité. La France est restée ici 65 ans. Nos parents sont venus pour la mettre dans la main. Même quand les Français s'agissent. Alors, on comprend ceux qui pensent qu'après la France est venue, alors qu'ils rejoignent la France.
Le départ de la France a été demandé à travers sa force Barkhane. Les manifestants souhaitent surtout une clarification de l'État français par rapport à la lutte contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, des affrontements entre la population et les forces de sécurité ont éclaté ce jeudi à Savé, dans le centre du pays, bastion de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. La route inter-État Cotonou-Savé a été barricadée et des résidents ont fait état d'échanges de tirs dans la soirée. La commune de Savé a enregistré de violentes manifestations à la suite des élections législatives contestées d'avril 2019. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le journaliste Rodrigue Azinongbe.
Écoutez, la tension est montée d'un cran ces deux derniers jours à Savé. C'est une localité qui est située au centre du Bénin. En toile de fond, l'arrestation d'un membre de la caste des chasseurs. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, ces chasseurs avaient été au centre d'affrontements avec les forces de l'ordre suite aux élections législatives passées, élections qui se sont déroulées dans un climat de tension, dans un climat un peu délétère. Bref. Tout est parti en vrille ces deux derniers jours, donc c'est en quelque sorte cette tension, l'arrestation de l'un des membres de ces chasseurs qui est à l'origine de ces nouveaux affrontements. Et il faut préciser aussi qu'il y a l'un des responsables de ces chasseurs qui est recherché depuis plusieurs semaines par les forces de l'ordre qui se sont déployées dans la localité.
Et pourquoi la route nationale a-t-elle été coupée ?
Alors, La stratégie qui est le plus utilisée très souvent lorsque dans cette zone il y a des tensions, c'est le blocage de la voie parce que c'est pratiquement la seule voie qui relie le nord au sud lorsqu'on prend la route interétat numéro 2. Donc si la voie au niveau de la ville de Savay est bloquée, plus personne ne pourra passer pour aller vers le nord. Il faudra faire un long détour pour aller prendre la route nationale interétat numéro 4, si je ne me trompe, qui va passer par Djougou avant d'accéder dans la partie septentrionale. Bref, la stratégie que les gens développent très souvent dans cette localité, c'est le blocage. Et c'est ce qui a été fait hier aussi, avec le blocage de la voie qui a duré des heures et des heures, ce qui a fait que les passagers allant dans l'un ou l'autre des sens n'ont pas pu bouger. Ils sont restés donc bloqués au niveau du poste de péage de Dio, où les manifestants se sont installés, c'est-à-dire la casse-tête des chasseurs. Donc ça a duré des heures et des heures avant que des renforts militaires et des policiers n'arrivent pour pouvoir débloquer la situation. On parle d'affrontement, nous n'avons pas encore la certitude. Une fois que la voie a été débloquée, les passagers ont pu circuler normalement. J'ai des amis qui ont pris par là tout à l'heure et qui parlent d'une ville totalement fantôme. Il n'y a presque personne dehors parce que en cas d'affrontement, vous savez, ce sont les paisibles citoyens, les innocents qui prennent les balles perdues. Donc là, c'est une ville carrément fantôme, une ville morte. Personne n'est dehors, tout le monde est barricadé chez lui. Les forces de l'ordre patrouillent, contrôlent totalement la ville et les chasseurs se sont réfugiés au niveau des collines.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui a causé ce regain de violence après les événements de mai dernier?
Alors, pour l'heure, c'est le calme à Savay. Les autorités ont pris la mesure de la situation en déployant un fort contingent d'hommes en armes pour sécuriser les populations. Les divers acteurs politiques appellent au calme. On ne sait vraiment pas ce qui se passe au niveau des collines. Certaines personnes parlent d'échanges de tirs, mais nous n'avons encore aucune version officielle venant de la part des autorités.
Et Rodrigue Azinongbe, journaliste béninois, joint à Parakou. Amnesty International dénonce l'acharnement du pouvoir ivoirien sur des proches de Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Son frère, Rigobert Soro, policier et soumis à une disparition forcée. Dahafolo Kone, un autre proche de Soro, est détenu sans inculpation et a besoin de soins médicaux. Ils font partie des 17 personnes placées en détention après une vague d'arrestations depuis le 23 décembre à Abidjan. Idriss Fall fait le point avec François Patuel du bureau d'Amnesty International à Dakar.
Depuis la fin décembre, on a enregistré 17 personnes qui ont été arrêtées, des personnes qui sont proches de Guillaume Soro. Voilà, le timing de ces arrestations et les irrégularités dans les procédures eh bien, sont suspects et laissent à craindre une instrumentalisation de la justice. Et à l'approche des élections présidentielles de 2020, il est vraiment important que la Côte d'Ivoire garantisse l'indépendance de la justice et s'assure que les personnes arrêtées aient droit à un procès équitable.
Ces personnes sont arrêtées depuis le 23 décembre. Qu'est-ce qu'on leur reproche au juste?
Il y a plusieurs dossiers. Il y a en effet 13 personnes qui ont été arrêtées le 23 décembre, dont 5 députés, par exemple le député Alain Lobognon. On leur reproche la diffusion de fausses nouvelles, l'atteinte à l'autorité de l'État par rapport à une conférence de presse où il faisait état de l'impossibilité de Guillaume Soro de revenir en Côte d'Ivoire. D'autres personnes qui ont été arrêtées, notamment le frère de Guillaume Soro, Rigobert Soro. Il a été convoqué à l'école nationale de la police le 30 décembre et depuis, personne n'a eu de ces nouvelles. Il n'a pas eu d'accès à un avocat. Il y a un autre proche de Soro également qui est le docteur Koné. Il a été arrêté lors de la perquisition chez l'avocate de Guillaume Soro, alors que les personnes en présence n'avaient pas présenté un mandat de perquisition. Arrêté chez cette avocate, il est depuis le 27 décembre au camp de la gendarmerie d'Agban. Il n'a toujours pas vu d'avocat non plus.
Et Guillaume Soro lui-même est l'objet d'un mandat d'arrêt international.
Alors Guillaume Soro, et oui, il y a eu le procureur de Côte d'Ivoire a indiqué qu'il y avait des poursuites contre lui. Un premier dossier pour présomption grave à l'atteinte à l'autorité de l'État. Et un deuxième dossier plutôt lié à la complicité détournement de données publiques. C'est ce qui a fait qu'il a rerouté son avion alors qu'il devait revenir en Côte d'Ivoire pour lancer sa campagne. Il avait indiqué qu'il serait candidat au présidentiel de 2020. Il était en train de retourner en Côte d'Ivoire quand son avion a pris finalement la décision d'être rerouté. voilà, le fait qu'il avait annoncé son intention d'être candidat, le fait que les élections approchent et les irrégularités dans la procédure, des éléments qui sont suspects et on craint qu'il y ait une instrumentalisation de la justice.
Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement d'Alassane Ouattara alors ?
La première chose, c'est qu'à l'approche des élections de 2020, qu'il garantisse l'indépendance de la justice, qu'il s'assure que les personnes qui sont arrêtées aient droit à un procès équitable. Et ça passe déjà, par exemple, par révéler le sort de Rigobert Soro, qui est de dire où est-ce qu'il est détenu, lui donner l'accès à un avocat, lui donner accès à sa famille et à des soins s'il en a besoin. C'est la même chose pour le docteur Koné. Chacun doit pouvoir préparer sa défense dans les meilleures conditions. Il ne doit pas y avoir de pression sur le pouvoir judiciaire pour arrêter les membres de l'opposition.
François Patuel, du bureau d'Amnesty International à Dakar.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le CES referme ses portes aujourd'hui. Trois jours durant, il a offert un accès aux technologies les plus transformatrices sur divers marchés, tels que la G5, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, la santé numérique et bien plus encore. Pour les innovateurs marocains présents à cette édition, c'est une première expérience qu'ils ont vécue avec beaucoup de fierté. N'est-ce pas, Arzuma Compaoré?
À l'instar du Sénégal, c'est la troisième fois consécutive qu'une délégation du royaume chérifien participe au salon de l'électronique de Las Vegas. Une dizaine de startups composées des étoiles montantes de la tech marocaine ont présenté leurs innovations, témoignant du dynamisme de l'écosystème technologique du continent. Parmi les différentes technologies utilisées par ces jeunes innovateurs, on retrouve l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. Lossa Lazrak est le CEO de la société Item Engineering.
Notre solution, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer les aéroports. On considère que les caméras de sécurité sont des nouvelles sources de données, que la machine peut détecter les défaillances de gestion et remonter l'information aux décisionnaires.
Pour Badre Idrissi de la start-up Atlan Space, la priorité, c'est optimiser la navigation des drones.
Atlan Space, c'est un module d'intelligence artificielle, c'est un module qu'on embarque sur le drone pour remplacer totalement le pilote humain. Le but de la technologie est purement civil. Elle est utilisée pour apporter du support à des migrants qui peuvent être perdus dans le désert, comme elle peut être utilisée, par exemple, pour combattre tout ce qui est pêche illégale, qui est un fléau énorme en Afrique, que ce soit Afrique de l'Est ou Afrique de l'Ouest.
Quant à Hamza Ismaili, c'est à l'âge de 12 ans qu'il s'est passionné pour la technologie. Aujourd'hui, cet étudiant en ingénierie informatique a développé une application pour guider les voyageurs à travers les aéroports du monde entier en utilisant de la réalité augmentée.
You open the application and our algorithm will actually...
Vous ouvrez l'application et notre algorithme détecte où vous êtes et vous positionne grâce à la caméra de votre appareil. Ensuite, vous entrez votre destination et le système vous guide à l'aide de flèches 3D projetées sur le sol à travers l'écran de votre téléphone.
3D objects, 3D arrows in the phone, in your display.
Au-delà de l'expérience unique qu'offre le plus grand rendez-vous de la technologie au monde, c'est un sentiment de fierté que l'on pouvait lire dans les yeux des innovateurs marocains.
Le Maroc, c'est le gateway d'Afrique, so on a cette diversité des entreprises qui vient d'être ouverte au Maroc. On essaie de projeter ici à CES que le Maroc, l'Afrique, a aussi le potentiel de contribuer à la révolution technologique.
Et après le CES, les start-upers marocains se lanceront dans une nouvelle aventure, un voyage d'études au cœur des États-Unis pour en apprendre davantage sur l'écosystème entrepreneurial du pays de l'oncle Sam. Arzuma Compaoré, VOA Afrique, Las Vegas.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno, JLS. À la console, Aiden Haute-Cook. À la présentation, Eric Manirakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.